Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le plus grand menu du monde, sous-titré « Histoire naturelle dans nos assiettes » est un essai de vulgarisation qui relie la gastronomie, l'histoire naturelle et la biologie. Bill François y adopte une forme originale, celle d'un menu, où chaque chapitre part d'un aliment pour remonter à son origine, à ses transformations et à ses liens avec les espèces, les civilisations et les paysages. Le livre ne se contente pas de décrire les produits que nous mangeons. Il montre comment ils ont été domestiqués, sélectionnés, déplacés et parfois réinventés au fil du temps. Son ambition est autant scientifique que culturelle, faire comprendre que l'alimentation humaine est le résultat d'évolutions complexes, d'échanges entre vivants sauvages et vivants domestiques, et de multiples hasards historiques. L'auteur mêle rigueur, humour et sens de l'émerveillement pour proposer une lecture à la fois instructive et très accessible sur le monde du vivant qui se cache dans nos assiettes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une structure en menu pour raconter l'origine des aliments. L'une des forces du livre tient à sa construction. Bill François organise son essai comme un véritable menu, ce qui donne à l'ensemble une progression claire et symbolique de l'apéritif au dessert jusqu'au café. Chaque étape devient un prétexte pour explorer l'histoire naturelle d'un ingrédient ou d'un plat. Cette forme n'est pas seulement décorative, elle permet d'unifier des sujets très variés sans perdre le lecteur. À travers ce dispositif, les aliments cessent d'être de simples objets culinaires et deviennent des portes d'entrée vers des récits sur la botanique, la zoologie, la chimie du goût et les circulations humaines. Le choix du menu traduit aussi une idée centrale du livre. Nos repas sont des assemblages d'histoires. Ils condensent des migrations d'espèces, des sélections agricoles, des usages culturels et des inventions techniques. La forme elle-même fait donc partie du raisonnement, elle transforme le repas en méthode de lecture du vivant. Deuxièmement, domestication et transformation réciproque entre humains, plantes et animaux. Le livre insiste sur la domestication comme phénomène majeur de l'histoire alimentaire. Bill François montre que les plantes et les animaux présents dans nos assiettes ne sont pas restés identiques à leur forme sauvage. Ils ont été modifiés par la sélection humaine, mais aussi intégrés à des environnements façonnés par nous. Cette perspective évite une vision trop simple où l'humain dominerait passivement la nature. Au contraire, la domestication est présentée comme une relation de transformation réciproque. Les espèces changent, mais nos pratiques, nos cultures et même certains traits de notre propre histoire biologique se trouvent influencés par elles. Le livre met en avant la diversité des variétés domestiques et rappelle que cette biodiversité est fragile, menacée par l'uniformisation alimentaire. L'intérêt de ce thème est double, il éclaire l'origine de nombreux aliments familiers. Et il montre que l'alimentation moderne repose sur un patrimoine vivant accumulé sur des siècles. Comprendre la domestication, c'est donc comprendre l'infrastructure biologique de notre cuisine. Troisièmement, le goût comme phénomène biologique élargi à l'umami. Un autre apport important du livre est son attention à la perception du goût. Bill François rappelle que la dégustation ne se limite pas aux quatre saveurs classiques souvent citées. Il met en valeur l'umami, cinquième saveur reconnue par la science et associée à certaines richesses gustatives. Cette précision n'est pas anecdotique, elle sert à montrer que notre rapport à l'alimentation est plus subtil qu'on ne le croit. Le goût n'est pas seulement culturel, il est aussi une construction biologique fondée sur des récepteurs, des molécules et des interactions entre espèces. En faisant dialoguer savoir scientifique et expérience sensible, l'auteur élargit la manière dont on pense les aliments. Il invite à regarder autrement des produits ordinaires, en révélant que leur saveur résulte d'une longue histoire naturelle. Le livre suggère ainsi que la cuisine n'est pas seulement affaire de recettes, mais aussi de chimie, d'évolution et d'adaptation sensorielle. Cette approche donne au lecteur des outils pour mieux comprendre ce qu'il mange, au lieu de se limiter à une appréciation instinctive. Quatrièmement, des anecdotes savantes pour relier la science, l'histoire et la culture. Le livre se distingue par sa manière d'enchaîner des anecdotes précises, souvent surprenantes, sans sacrifier la rigueur. Bill François ne présente pas la science comme un discours abstrait. Il l'inscrit dans des histoires de mots, de plantes, d'animaux, de routes commerciales, de pratiques agricoles et de références culturelles. Cette méthode rend visible la profondeur historique des aliments. Une épice, un fruit ou un légume devient alors un point de rencontre entre botanique, exploration, cuisine et imaginaire collectif. Le texte tire une grande partie de sa force de cette circulation constante entre savoir scientifique et récit culturel. Le lecteur ne reçoit pas seulement des informations, il comprend comment elle s'articule dans une vision d'ensemble du vivant. Cette façon de raconter permet aussi de corriger certaines idées reçues. Par exemple, sur l'origine de produits jugés évidents ou intemporels, l'érudition du livre ne consiste donc pas à accumuler des faits, mais à les relier de manière intelligible, afin de faire apparaître le caractère construit de ce que nous appelons nourriture. En dernier lieu, une réflexion écologique et éthique sur la biodiversité alimentaire. Au-delà de l'émerveillement gastronomique, le livre porte une réflexion écologique nette. En retraçant l'origine sauvage des aliments et la richesse des espèces domestiques, Bill François souligne l'importance de préserver la biodiversité. Le propos n'est pas militant au sens simpliste, mais il est clairement orienté vers la responsabilité si notre alimentation dépend d'un tissu vivant complexe. Alors la disparition des milieux naturels, l'érosion des variétés et le traitement indifférencié des espèces ont des conséquences concrètes. Le livre relie également cette conscience écologique à une attention au bien-être animal et à l'équilibre alimentaire. Il ne prône pas une rupture radicale avec la cuisine, mais une manière plus lucide et plus respectueuse de penser ce que nous mangeons. Cette dimension distingue l'ouvrage d'un simple livre de curiosité culinaire. Il ne se contente pas de faire apprendre, il cherche à modifier le regard du lecteur sur la place de l'humain dans le vivant. La gastronomie devient alors un point d'entrée vers une éthique de la coexistence avec les autres espèces. En conclusion, ce livre s'adresse à un public curieux de nature, de science, d'histoire des aliments et de gastronomie, mais aussi à tous ceux qui aiment les essais capables de conjuguer savoir et plaisir de lecture. Il sera particulièrement utile à ceux qui souhaitent comprendre d'où viennent réellement les aliments du quotidien, comment ils ont été domestiqués et pourquoi leur diversité est un enjeu écologique autant que culinaire. Sur le plan intellectuel, l'ouvrage offre une vraie mise en perspective. Il montre que manger n'est jamais un acte purement pratique, mais le résultat d'une longue coévolution entre sociétés humaines et mondes vivants. Ce qui le distingue de nombreux livres similaires, c'est sa forme de menu narratif, à la fois cohérente et inventive, qui donne une logique naturelle à la progression des idées. S'y ajoute une vulgarisation scientifique solide, un ton vivant et une capacité rare à faire surgir l'étonnement à partir d'objets ordinaires. C'est un livre qui éclaire autant qu'il réenchante. Si vous souhaitez soutenir Bill François, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.